Vous êtes sur RTL. Vincent Parisot, RTL Midi.
Bonjour à toutes et à tous et évidemment bonne route si vous êtes en voiture. On est ensemble jusqu'à 13h. Et à la une.
J'ai deux amours.
Josephine Baker, panthéonisée cet automne, l'artiste franco-américaine disparue en 75, figure éminente de la résistance et de la lutte antiraciste. Elle va donc entrer au Panthéon, ce sera le 30 novembre. Elle sera ainsi la première femme noire à faire son entrée parmi les grands hommes de l'histoire de France. L'écrivain Pascal Bruckner a œuvré pour convaincre Emmanuel Macron, vous l'entendrez. Les règles pour la rentrée des classes du 2 septembre, pas de passe sanitaire, ni pour les élèves, ni pour les profs. Cours en présentiel, masque obligatoire à l'intérieur, limitation du brassage, aération renforcée. Le détail de l'affaire de la feuille de route de Jean-Michel Blanquer dans ce journal. Trois nouveaux morts à Marseille, dans deux règlements de compte liés au trafic de drogue. Les deux fusillades pourraient d'ailleurs être liées. En Afghanistan, malgré le pont aérien et les exfiltrations, le chaos persiste devant l'aéroport de Kaboul. Sept Afghans y ont trouvé la mort écrasés par la foule. Les Américains sont responsables, disent les talibans, estiment que la situation doit cesser au plus vite. Vous entendrez le témoignage d'un jeune franco-afghan qui est coincé dans cette foule. Le football, la Ligue 1, la suite, avec dans une demi-heure Lyon-Clermont. Les 24 heures du Mans, avec des Toyota toujours en tête, on ira sur le circuit de la Sarthe. Et puis sachez que ce soir à 17h45 sera donné le départ de la solitaire du Figaro à Saint-Nazaire. À 12h45, ce sera Chemin d'écrivain. Bonjour Bernard Lehu.
Bonjour.
Où nous emmenez-vous aujourd'hui?
Dans les plus beaux villages du Var, avec Jean-Baptiste Andréa, lauréat du Grand Prix RTL Lire 2021.
À tout à l'heure Bernard. Et puis Valérie Quintin, les orages s'en vont?
Ils sont en train de partir. On a encore quelques averses orageuses à l'heure qu'il est entre les Hauts-de-France et le Grand Est. C'est pas grand-chose, rien à voir avec ce qui s'est passé la nuit dernière. Et puis à l'arrière, on sent bien que les éclaircies veulent revenir, même sur la moitié nord. Alors, il va pas y avoir de ciel bleu, mais quelques petites lueurs ensoleillées, entrecoupées de passages nuageux et d'averses. Le grand soleil, on va le trouver entre la vallée du Rhône et la Méditerranée, mais attention au vent qui va se lever cet après-midi. Un mistral qui atteindra les 50 km/h, notamment entre le Var et la Corse. Côté température, fourchette de 20 à 35 degrés entre Perros-Guirec et Nîmes cet après-midi, 22 à Strasbourg, 23 à Paris, 24 à Poitiers, 29 à Lyon et 32 degrés à Marseille.
Merci Valérie.
RTL Midi, Vincent Parisot.
Et justement, si les orages s'en vont, ils ont frappé parfois durement hier. Et revenons sur celui très impressionnant d'hier soir en Moselle, entre 22h et minuit, dans le secteur de Metz-Saint-Avold. Ciel illuminé comme en plein jour par les éclairs. Des rafales de vent à plus de 120 km/h. Et puis un déluge d'eau et de grêle à Saint-Avold. Il est tombé 2 semaines de pluie en 2 heures. Yannick Collant, vous êtes allé sur place ce matin.
Oui, le spectacle de ce matin témoigne de la violence de l'orage de cette nuit. De grands arbres cassés en deux et des blocs de grêlons sur les trottoirs. Evelyne et Jean-Marc nettoient leur maison. Leurs volets sont criblés d'impact.
Ça faisait un petit bruit. On a ouvert le volet, on a regardé dehors et on a vu le carnage.
Il y avait une rivière de grêlons et d'eau qui descendait comme s'il y avait une rivière devant la maison. Oui, c'était assez impressionnant. Et les arbres qui se pliaient, mais jamais vu ça.
Juste en face, les tronçonneuses tentent de dégager une maison. Un immense sapin est brisé en trois.
Depuis ce matin, voilà, tronçonneuse, les bras. Heureusement qu'on est une grande famille, tout le monde donne un coup de main. Mais là, c'est désolant, oui. Ah, ça n'a pas duré. Tout au plus une demi-heure. Mais violent, hein.
Tous les dégâts des arbres, les mirabelliers. Il n'y a plus de feuilles sur les arbres. On a changé les tuiles qui sont parties. Il pleuvait à l'intérieur de la maison ce matin. C'est terrible. Je crois que là, on a vraiment... On a morflé, il y a tout ce qui est derrière, tout est tombé.
Il faut dire que dans le secteur, les rafales les plus fortes ont été chronométrées hier soir à plus de 126 km/h.
Reportage de Yannick Collant à Saint-Avold ce matin. Josephine Baker va donc faire son entrée au Panthéon le 30 novembre. La célèbre chanteuse, danseuse, meneuse de revue franco-américaine décédée en 1975 va devenir ainsi la première femme noire à reposer dans le temple de la République. Emmanuel Macron a décidé d'honorer l'artiste, la militante de la liberté et de l'égalité. Il a été convaincu par un certain nombre de personnalités venues plaider pour ce transfert au Panthéon, notamment Brian Bouillon-Baker, l'un des fils de Josephine Baker, mais également le chanteur Laurent Voulzy, ou encore l'essayiste écrivain Pascal Bruckner, joint par Aurélia Valérié.
Elle était en concurrence avec d'autres et Apparemment, la décision a été assez rapide, puisqu'au bout de 20 minutes d'entrevue avec le président, il nous a dit que c'est acté, c'est bon.
En quoi Joséphine Baker méritait pour vous cette panthéonisation ?
D'abord, c'est une Américaine qui est venue en France pour échapper au racisme nord-américain. Elle a été adoptée par la France, comme elle a elle-même adopté la France dès le début des hostilités. Elle est rentrée dans les forces françaises libres. Elle a eu une carrière de résistance extraordinaire. Quand Martin Luther King a donné son grand discours à Washington, elle était à côté de lui en uniforme des forces françaises libres. Donc c'est quand même pas mal, ça a quand même de la gueule. Elle était afro-américaine, mais elle avait embrassé la France. Je m'en réjouis.
Paris, Paris, Paris. C'est sur la terre,
voilà, la joie de l'essayiste Pascal Bruckner qui a œuvré avec d'autres donc pour que Joséphine Baker fasse son entrée au Panthéon. Et ce sera donc chose faite le 30 novembre prochain. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, lui a précisé dans un entretien au journal du dimanche ce que devrait être la rentrée des classes le 2 septembre prochain, comment elle devrait se dérouler malgré la Covid et l'épidémie de variant Delta. Pierre Herbulot, il n'y aura pas besoin du pass sanitaire?
Oui, tous les élèves, quel que soit leur âge, pourront aller à l'école comme avant, ce qui n'empêche pas le ministre de l'Éducation nationale de continuer à promouvoir la vaccination chez les 12-17 ans. C'est une des nouveautés de la rentrée. Il y aura un système de facilitation d'accès au vaccin. Préfectures, académies et agences régionales de santé sont en train de déterminer, département par département, le nombre de centres éphémères à installer. Ça peut être au sein même des établissements comme à l'extérieur, avec des sortes de sorties vaccination organisées pour les volontaires. Et puis donc, la question des sorties scolaires. Justement, pas besoin d'être vacciné pour aller à la piscine, rassure Jean-Michel Blanquer. En revanche, les sorties dans les lieux publics, comme les musées, seront-elles bien soumises au pass sanitaire pour les profs, les élèves et les accompagnants?
Et alors, pour le protocole sanitaire en lui-même, Pierre, c'est le niveau 2 qui a été choisi. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, déjà, c'est niveau 2 sur 4. Donc, sur une échelle de couleurs qui irait du vert au rouge, on est sur du jaune. Et ça veut dire une rentrée plutôt normale, pour reprendre les mots du ministre. Des cours en présentiel pour tout le monde, de la plus petite section de maternelle au terminale. Les cours de sport sont autorisés, même en intérieur. Seuls les sports de contact sont interdits. Autrement, port du masque obligatoire, désinfection et aération régulière des classes aussi, dit le protocole. Un dispositif amené à évoluer localement en fonction de la situation sanitaire vers plus ou moins de restrictions.
Merci Pierre Herbulot. On l'a compris, il pourra donc y avoir des centres de vaccination au sein même des établissements. Alors écoutez la réaction de Gwenaëlle Surel, le secrétaire général adjoint du syndicat national des personnes de direction de l'éducation nationale.
Nous, dans tous les cas, il n'y a pas de souci pour accueillir des centres de vaccination dans les établissements. Par contre, nous n'avons pas la RH et les compétences pour organiser ces centres de vaccination S-qualité. Donc, le lieu, on peut le fournir, mais on ne peut fournir que le lieu dans les établissements. Est-ce qu'on est capable de nous amener un pôle administratif et, on va dire, des personnels aptes à vacciner H24 ou une fois par semaine? Il faut être attentif à ne pas mettre en place des usines à gaz pour ne serait-ce que vacciner que quelques élèves dans un lycée.
Voilà. Gwenaëlle Surel, le secrétaire général du SNPDEN. Il est 12h38. Faisons une courte pause dans un instant. Marseille avec 3 nouveaux morts cette nuit dans des règlements de compte.
RTL Midi. Vincent Parisot, RTL Midi.
À Marseille, la série noire continue. La soirée a été marquée par de nouvelles fusillades, 2 règlements de compte qui ont fait 3 morts, Valentin Boissé.
Oui, 2 événements différents. Le premier dans le quartier de la Marine Bleue au nord de Marseille. Vers minuit, une voiture est arrivée devant un point de deal. Des douilles de 9 mm ont été retrouvées sur place et 2 hommes connus pour trafic de stupéfiants sont morts par balle. Quelques instants plus tard, c'est dans le 4e arrondissement, cette fois-ci pas loin du centre-ville. Un homme se fait tirer dessus. Il est ensuite enlevé par une personne encagoulée. Ses ravisseurs finissent par l'abandonner dans une voiture en feu dans le 13e arrondissement. C'est là encore au nord de Marseille. Il s'agirait de règlements de compte dans les 2 cas. Selon les premiers éléments, des fusillades qui se sont multipliées ces derniers jours. Selon Rudy Mana, il est secrétaire départemental du syndicat Alliance pour les Bouches-du-Rhône.
Un premier règlement de compte entraîne la vengeance de celui qui a été tué de son groupe, de sa bande ou de son cartel, la vengeance vis-à-vis du premier, parce qu'entre eux, ils savent qu'ils se tuent. Hein. Donc voilà, ça entraîne des vengeances, qui entraînent des vengeances, qui entraînent des vengeances. Et en fait, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir.
La préfète de police, Frédéric Camilleri, s'est rendue sur place. Elle a d'ailleurs rappelé que depuis le début de l'année, 94 policiers ont déjà été envoyés en renfort sur la ville de Marseille.
Merci Valentin Boissé. La situation devient de plus en plus inquiétante 30 aux portes de l'aéroport de Kaboul. Sept Afghans ayant trouvé la mort écrasés dans des mouvements de foule. Des milliers de familles continuent de se presser pour tenter de fuir le pays et les talibans. Des talibans qui commencent d'ailleurs à hausser le ton. Il y a la paix et le calme dans tout le pays, mais il n'y a que le chaos à l'aéroport de Kaboul. Ça doit cesser le plus vite possible. Voilà ce que vient de déclarer un de leurs plus hauts responsables. 6000 soldats américains sont sur place. Ils surveillent les évacuations avec des contrôles qui empêchent certains de partir. Voilà ce que dit le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Alors, pour bien comprendre la situation, écoutez, ce jeune Français de 23 ans, originaire d'Afghanistan, il était d'ailleurs rentré au pays pour récupérer ses deux frères à l'approche de l'arrivée des talibans, et il décrit ce qui se passe.
C'est un bordel. Il y a plus de 6000 personnes devant chaque entrée. Il y a deux entrées principales où normalement les gens ils partent, ils sont bloqués par les talibans. Il y a les forces de l'ordre afghanes qui tirent partout. En fait, il y a trop de monde qui veulent rentrer à l'aéroport. Il y a des gens qui ont des passeports mais ne peuvent pas rentrer. En fait, tout le monde est collé. On n'arrive même plus à respirer. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des enfants qui crient qu'ils ont perdu leur mère dans la foule. C'est incroyable. Et on se fait frapper, on se fait tirer juste à côté. C'est un scandale. Je connais quelqu'un, il s'est fait... Le policier lui a frappé dans l'œil. L'autre, il lui a frappé dans les jambes. Ça veut dire que vous rentrez dans la foule, il est possible que vous perdiez un œil. Et c'est pour ça que j'ose pas partir. C'est très dangereux.
Voilà, Shahid Daoud, un jeune Français d'origine afghane bloqué à Kaboul. Il était avec Nerissa Emani. Hier, un cinquième avion s'est posé en France avec à bord des Français et des Afghans évacués. Le football avec la suite de la troisième journée de Ligue 1. Dans 20 minutes maintenant, ce sera le début de Lyon-Clermont. On fera d'ailleurs un point tout à l'heure pour le début de la rencontre à 13h. À 15h, 4 rencontres. Montpellier reçoit Lorient, Bordeaux reçoit Angers, Strasbourg 3, Metz, Reims. À 17h, ce sera Rennes-Nantes et puis à 20h40. Nice, Marseille, à suivre évidemment sur RTL. Hier, Lens a battu Monaco 2-0 et Saint-Etienne et Lille ont fait match nul un partout. On part sur le circuit du Mans avec l'arrivée des 24 heures. Ce sera un peu après 16 heures. Frédéric Veil, les Toyota sont toujours en tête.
Oui, le cavalier seul de la Toyota numéro 7, piloté en ce moment même par l'Argentin José Maria Lopez, qui caracole toujours en tête. Je regardais les statistiques de course et j'ai quand même noté qu'hormis au 11e tour, et au moment où la piste séchée Alpine avait provisoirement pris la tête lors des changements de pneus, eh bien, cette hypercar Toyota fait toute la course en tête, et cela dure depuis maintenant plus de 20h, 20h 43 minutes très exactement, qu'elle est en tête, et elle possède deux tours d'avance sur l'autre Toyota, celle actuellement pilotée par Brenton Hartley. Alpine est toujours troisième, mais Alpine est à 5 tours. Enfin, Vincent, saluons la superbe performance pour l'instant de l'équipage Saucer Racing Team et de ses deux pilotes paraplégiques. Takuma Aoki et Nigel Bailly sont actuellement 32e sur les 48 voitures encore en course. Elles étaient 61 au départ. Mais avec la pluie, il y a eu pas mal de casses au cours de la nuit.
Merci beaucoup Frédéric Veil, qui évidemment vous fera vivre sur RTL l'arrivée de ces 24 heures du Mans tout à l'heure, un petit peu après 16h. Et puis sachez aussi qu'à 17h45 sera donné le départ à Saint-Nazaire de la 52e solitaire du Figaro. Courte pause et puis dans un instant, vos chemins d'écrivain.
RTL Midi. Chemin d'écrivain. Bernard Lehu.
Bonjour à toutes et à tous. Pour ce dernier rendez-vous de l'été, notre guide sera Jean-Baptiste Andréa. En mars dernier, son livre « Des diables et des saints » était récompensé par le Grand Prix RTL Lire, magazine littéraire. Il y racontait l'histoire émouvante d'un vieux pianiste de gare et d'aéroport à la recherche d'un amour de jeunesse, croisé alors qu'il était orphelin dans une institution religieuse à la discipline de fer, une véritable école à la fois de la camaraderie et de la trahison. Un très beau livre. Retrouvons sans tarder Jean-Baptiste Andréa au volant de sa voiture, quelque part dans le sud-est de la France.
Alors, nous sommes dans le Var, un petit peu en altitude. Moi, je viens du Var des collines, du côté de l'Est Var, du côté de Fayence, mais j'avais envie de vous emmener dans ce qui est pour moi le vrai Var, c'est-à-dire c'est un Var qui n'est pas colonisé, goudronné, bétonisé. Alors là, on passe devant un endroit que je trouve absolument magique. Hein. On est sur un plateau et il y a une petite chapelle que je trouve très très émouvante.
Ah oui, qui est là sur notre gauche, petite chapelle romane.
Et elle répond au fantastique nom de chapelle de Gratte-Moine. Et je pense qu'elle devait faire partie de l'abbaye de Lérins, hein, donc qui sont les îles en baie de Cannes. Et les abbayes de Lérins étaient très puissants et avaient des établissements dans toute la Provence. Et voilà, là on est dans un endroit qui est d'une beauté rare. Moi j'aimerais que le Var n'ait jamais changé, qu'il soit comme ça, des champs, des collines, C'est vraiment un endroit merveilleux qui me... Chaque fois que je passe souvent en voiture, quand je vais dans des rencontres, je prends souvent la voiture, parce que j'ai un grand plaisir à passer là, je trouve ça extrêmement apaisant. Et on est dans une Provence qui ressemble déjà un peu plus à celle de Giono.
Alors, vous nous proposez une petite halte.
Absolument, et nous arrivons au village de Brovets.
Pourquoi ici ?
Le village de Brovets qu'on voit là, alors d'abord je tiens à préciser qu'on est dans un paysage où le temps s'est arrêté. Hein. Si on regarde autour de nous, c'est des barres rocheuses, des champs de fourrage. Et ici on est en fait dans un endroit qui est préservé parce qu'il appartient à l'armée. C'est un des plus grands camps d'artillerie d'Europe, donc en fait on risque notre vie là, Bernard. Non, je plaisante, normalement c'est assez sûr. Mais
c'est le camp de Canjuers.
C'est le camp de Canjuers. Et donc tout cet endroit... Eh bien, en fait, rien n'a changé depuis 300 ans. Voilà, il y a pas d'activité ici. Et j'adore revenir ici parce que revenir ici, c'est remonter le temps. Particulièrement donc dans ce village qui a été évacué, je pense, au tout début des années 70, puisque en fait, l'armée a étendu son camp à cette époque-là. Et donc, on a dit aux habitants, bah, écoutez, c'est fini, votre vie ici, vous étiez là depuis des générations, on va vous reloger plus bas. Chaque fois que je passe devant ce village, j'ai envie d'écrire un roman dessus, ce que peut-être je ferai un jour.
Le village fantôme.
Oui, puis vous allez voir, il y a encore l'église. Enfin, il y a tout, il y a l'heure sur l'église. Je ne sais pas quand l'horloge s'est arrêtée. On ne peut pas s'empêcher de penser à ce qu'ont dû ressentir les gens en partant de chez eux. Finalement, c'est des choses qui arrivent souvent dans des zones de guerre. Et là, ce n'est pas le cas, bien que ce soit l'armée qui ait forcé ça. Mais voilà, il y a un exode qui s'est produit là. C'est juste...
Ah ben voilà, d'ailleurs, des véhicules militaires qui sont en train de passer sur la route.
Ah ben d'abord, d'habitude, il y a une chaîne là. Elle n'est pas là. Bon, venez, on va avancer.
Un petit panneau. Oui,
alors, lecture de ce panneau. Domaine militaire, défense d'entrée, tir en cours, danger de mort. Bon,
On prend des risques avec vous, Jean-Baptiste André.
Pourquoi ça vous fascine à ce point, ce type de paysage?
C'est tout de suite quelque chose qui donne envie de raconter une histoire. En fait, mon premier roman est né de mes pérégrinations sur cette route sur laquelle on était précédemment, où je voyais des stations-service abandonnées.
Marraine, le titre de votre premier roman.
Et j'avais envie de raconter, de rallumer la lumière dans un de ces endroits, et c'est très cinématographique, et je me faisais des petits films sur qu'est-ce qui a pu se passer dans les derniers temps de ces stations. Penser aux gens qui y vivaient, qui avaient une activité locale, aux écoles qui existaient. Donc tout de suite, il y a quelque chose qui se recrée, hein, quand on imagine un peu. Et ce village, c'est pareil. Ah oui, là, regardez, on a un petit troupeau de chèvres, là. Moi, je trouve ça magique, là, il y a les petits chevreaux devant nous. Alors ça, c'est incroyablement émouvant. C'est vraiment remonter dans le temps. Hein. Je plaisante pas, c'est vraiment ça. J'aime me dire qu'en fait, quelqu'un qui vivait ici il y a 300 ou 400 ans voyait ce qu'on voit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voyait? Des arbres, peut-être pas le même, des chèvres, de l'herbe, et peut-être même déjà certains de ces bâtiments. Et puis, il y a le silence, qui est une chose très rare. Moi, je suis très, très attaché au silence. C'est génial.
On sent chez vous vraiment cette envie de vivre dans la solitude, de vivre perdu au milieu de cette nature. Pourquoi ?
Pourquoi ? Je n'en ai pas la moindre idée, mais c'est un désir effectivement qui est très vif chez moi et mon épouse, heureusement, donc c'est une solitude partagée quand même. On a besoin de ça tous les deux. Moi, j'adorerais qu'on puisse avoir une ferme ici, au milieu de nulle part, sans voir personne, ou plus exactement, parce que je ne suis pas un misanthrope absolu, en ne voyant des gens que quand on a envie de les voir. Mais je ne sais pas, la solitude, c'est l'inspiration. Moi, c'est sur ces routes que j'écris, en fait. Les gens me demandent souvent, comment vous écrivez ? C'est dans un bureau ? Oui, l'acte d'écrire est dans un bureau, mais les idées viennent de ces moments où on conduit sur ces routes, on regarde autour de soi, puis on est dans cet état de disponibilité absolue. J'écris beaucoup en voiture, moi, ce qui fait sûrement de moi un conducteur dangereux, d'ailleurs.
Comment ça, en voiture ? Ah, mais avec votre femme qui est au volant. Hein.
Non, mais j'écris dans ma tête, c'est là que me viennent mes idées. Donc j'ai une partie du cerveau concentrée sur la conduite, et puis l'autre partie qui dérive un peu... On a des vautours qui nous survolent, là, des rapaces. Enfin, voilà, je sais pas, c'est propice. Il y a quelque chose de magique ici. Hein. Moi, je suis presque animiste. De toute façon, je suis très écologiste d'abord. Je suis très sensible. J'adore les animaux et je suis très défenseur de la cause animale. Et ici, on se reconnecte à tout ça, à un monde presque d'avant l'homme, en fait. Hein. Il y a une transcendance ici. Donc, les idées viennent.
Prochaine étape de votre chemin d'écrivain, Jean-Baptiste Andréa.
Le village de Bargem, qui est le plus haut village du Var, et le lieu de tragédie, meurtre, peste, guerre, et qui aujourd'hui est un très 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 joli village.
Allez, à l'assaut de Bargem.
Margem.
On est à 1097 mètres et c'est
oui, quand même.
Voilà. Alors aujourd'hui, il fait très chaud, hein, et c'est une région où il fait très chaud l'été, mais c'est un village qui doit faire 220 habitants. Je crois que c'est classé comme un des plus beaux villages de France. C'est minuscule. Tout me plaît ici. Et le fait qu'il y ait la roche, la minéralité qui commence à affleurer ici, l'annonce des montagnes. C'est une promesse. Moi, je suis, et mon épouse et moi-même, on est vraiment amoureux des montagnes. Et on a très envie d'y vivre un jour et de s'en rapprocher. Je pense que c'est quelque chose qu'on va faire. Et donc, il y a cette promesse dans cette roche qu'on voit affleurer déjà autour de nous, au milieu du vert. Dans ces reliefs qui nous entourent, il y a cette promesse des montagnes. Et je crois que c'est ça qui m'appelle ici. Alors, on va le rejoindre par là.
On passe par là.
On ne va pas prendre le chemin facile.
D'accord.
On va prendre le chemin le plus pierreux. Et ça va nous amener avec une plus jolie vue sur le village et sur l'histoire de ce village qui est assez mouvementée.
Ça grimpe, hein?
Oui, c'est un endroit qui vraiment me plaît, d'autant plus que, comme beaucoup de la Provence, c'est un coin qui est chargé d'odeurs. Le soleil fait sortir les essences. Et beaucoup de mon rapport à mon environnement, comme je suis un myope, passe par mon nez. Enfin, j'ai un très bon odorat, c'est mon seul sens qui fonctionne très bien. Ça me reconnecte à mon enfance, en fait, ces odeurs. Moi, j'ai grandi hein, dans cette... pas sur ces plateaux, mais un peu plus bas, plus près de la mer. Mais il y a quand même ces odeurs qui me reconnectent en permanence à mon enfance. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'elle n'est jamais très loin. Et je crois que je viens aussi rechercher ça, parce qu'elle se mêle beaucoup au diesel, maintenant, hein, quand on va vers la côte. Et là, non, il n'y a rien d'autre que ces essences qui montent de la terre. Les parfums extraordinaires. Les parfums me nourrissent mon écriture beaucoup, en fait.
Le village est en vue. Bon, c'est un village fortifié, là. On a les ruines d'un château devant nous, d'un château fort.
Oui, alors c'est un château du XIIIe siècle qui appartenait à la famille Pontevès. Et alors, les Pontevès, qui étaient les seigneurs du lieu durant les guerres de religion, se sont embrouillés avec les habitants d'un village voisin, qui n'est pas loin de chez moi, qui s'appelle Calas. Les Pontevès sont allés massacrer joigneusement les habitants du village pour les intimider. Mais très peu après, les habitants de Calas ont voulu se venger. Et donc, dans les 5 ou 10 années qui ont suivi, ont à leur tour allègrement massacré les habitants de ce château. Et ont été condamnés pour ça à construire la chapelle qui est en très bon état d'ailleurs et qui est devant nous en guise de pénitence. Donc voilà, alors là on est dans un endroit d'une quiétude absolue et c'est vrai que c'est assez difficile d'imaginer que c'était ici un lieu de querelle politique, ça a été un...
Et de massacre, donc, où on s'est entretué.
Une nouvelle fois, c'est un lieu qui raconte une histoire ou qui nous dit, racontez-moi, hein. On voit ce château qui a ouvertement été magnifique, qui est complètement démantelé maintenant. Et voilà, le village, c'est un vrai décor de film, je trouve ça incroyable, il y a une petite mairie, on se croirait dans un décor à la Pagnole.
Est-ce que le roman historique est un genre qui pourrait vous tenter, Jean-Baptiste André?
Ça me tente en tant que lecteur. Souvent, j'associe roman historique à gros bouquins que j'aime beaucoup lire en tant que lecteur. J'aime les gros livres, mais je n'aime pas écrire de gros livres. Donc, non, je ne peux pas répondre à la question là.
En tout cas, la tentation aujourd'hui n'est pas là, n'existe pas.
Vous me l'avez mise en tête, hein, après tout. Ah voilà, là, il y a la mairie, c'est marrant. C'est la première fois que je l'avais ouverte.
Minuscule mairie, à la taille de ce petit village.
Et encore ça aussi, ça c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé très émouvant. Ce sont les monuments aux morts. Et on voit que, enfin, pour mesurer l'impact de la Première Guerre mondiale, je trouve ça incroyable d'aller dans un coin aussi perdu et de voir que ce village a donné 6 de ses adultes, alors qu'il ne devait pas y en avoir beaucoup des adultes ici, dans la Première Guerre mondiale. Je trouve que ça nous permet de mesurer l'ampleur du drame que ça a été. Même ici, au milieu de nulle part, on ne peut pas y échapper. Et des hommes jeunes, et on se dit que, voilà, déjà leur jeunesse fauchée, là, qu'est-ce qui reste? Enfin, Giono a écrit un très beau bouquin, Le Grand Troupeau, je crois que c'était un de ses premiers livres, hein, ouais. Sur le retour après la guerre. C'est ça encore quelque chose auquel on ne peut pas rester insensible.
Qu'est-ce que vous ressentez? Quel est votre état d'esprit, j'allais dire votre état d'âme à chaque fois que vous arrivez dans ce village?
Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment un état d'âme, c'est un état de paix. Un état de paix intérieure et qui devrait se traduire, à mon avis, de manière médicale par une baisse instantanée de ma tension, qui d'ailleurs est bonne en temps normal, a priori. Mais c'est vraiment ça, c'est un endroit qui... C'est un endroit de paix, c'est un endroit de méditation, c'est un monastère à ciel ouvert.
Jean-Baptiste Andréa, mais ce chemin d'écrivain touche déjà à sa fin.
Et oui, c'est à regret que nous allons devoir quitter ce lieu et nous quitter.
Alors, la tradition veut que vous nous proposiez une musique, une chanson, que vous associez à ce chemin que nous venons de parcourir ensemble. Que choisissez-vous, Jean-Baptiste Andrea ?
Alors, j'aime beaucoup un chanteur anglais qui s'appelle Tom Moriarty et je choisis une chanson qui s'appelle Me and the Sun, qui, je trouve, est à la mesure de ces paysages et de ce village, un mélange de grande beauté et de gravité.
Et un paysage sous le soleil, évidemment.
Il va falloir aller s'en abriter, je crois, maintenant. Just me.
C'était Le chemin d'écrivain dans le Haut-Var de Jean-Baptiste Andrea, lauréat du Grand Prix RTL Lire 2021 pour son beau roman Des diables et des saints publié aux éditions de l'Iconoclaste. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que tous les chemins d'écrivains diffusés cet été sur l'application RTL. RTL qui entame une nouvelle saison dès demain. Je vous donne notamment rendez-vous à 9h dans Laissez-vous tenter avec Yves Calvi. Nous recevrons Amélie Nothomb pour son 30e livre Premier sang. Bel après-midi.
Et merci pour cette balade d'écrivain Bernard Lehu. À très vite et notamment dès demain matin, vous l'avez dit, dans un instant, le rappel de l'info avant les voix du crime sur RTL.
RTL. Passez une bonne journée sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
Il est 13h.
Vincent Parisot,
RTL Midi.
Joséphine Baker sera panthéonisée cet automne. L'artiste franco-américaine disparue en 1975, figure éminente de la résistance et de la lutte antiraciste, va donc entrer au Panthéon le 30 novembre. Elle sera ainsi la première femme noire à faire son entrée parmi les grands hommes de l'histoire de France. Les règles pour la rentrée des classes du 2 septembre, elles sont données par Jean-Michel Blanquer dans une interview au Journal du Dimanche. Pas de pass sanitaire, ni pour les élèves, ni pour les enseignants. Cours en présentiel, masque obligatoire à l'intérieur dès le primaire, limitation du brassage des élèves, aération renforcée dans les classes. Trois nouveaux morts hier soir à Marseille dans deux règlements de compte liés au trafic de drogue. On ne sait pas si les deux fusillades sont liés. En Afghanistan, malgré le pont aérien, les exfiltrations, le chaos persiste devant l'aéroport de Kaboul. 7 Afghans y ont trouvé la mort, écrasés par la foule. Les Américains sont responsables de cela, disent les talibans, et ils estiment que cette situation doit cesser au plus vite. Le sport avec le football. Encore 7 rencontres pour la 3e journée de Ligue 1. Lyon-Clermont, ça commence maintenant. J'imagine, Raphaël Vantard, vous êtes à Lyon.
Exactement, 0-0 entre Lyon et Clermont ici au Groupama Stadium. Des Lyonnais qui jouent déjà gros pour cette 3e journée puisqu'avec une défaite et un nul, ils pointent à la 18e place du classement, un rang indigne évidemment du statut de l'Olympique Lyonnais qui veut jouer un rôle sur la scène européenne. Il faut donc se reprendre pour les hommes de Peter Bosch, alors que du côté auvergnat, Clermont découvre avec réussite cette Ligue 1, 2 victoires pour les hommes de Pascal Gassien qui entendent bien rester cet après-midi co-leader, oui co-leader avec le PSG du championnat de Ligue 1. 0-0 entre Lyon et Clermont ici, 3 minutes de jeu.
Merci Raphaël. À 15h, 4 matchs, Montpellier reçoit Lorient, Bordeaux reçoit Angers, Strasbourg 3 et Metz accueillera Reims. À 17h, ce sera Rennes-Nantes et le match du soir à 20h45, Nice-Marseille. Et puis la solitaire du Figaro, départ à 17h45 de Saint-Nazaire. Valérie Quintin, deux mots du ciel.
Ce sera un départ sous le soleil hein, parce que les éclaircies tant vont mieux revenir justement par l'Atlantique. On n'a pas un ciel si terrible que ça cet après-midi. Certes, il reste encore quelques averses orageuses dans le Grand Est. Ce sera qu'à une grande partie de l'après-midi, mais pas de gros orages. Deux, trois averses qui circulent aussi au nord de la Seine. Sinon, un mélange de gros nuages, de petites éclaircies et du grand soleil quand même entre la région Rhône-Alpes et la Méditerranée. Attention au vent, le vent d'ouest qui va se lever cet après-midi. Il soufflera à 50 km/h entre le Var et la Corse. Les températures, ça bouge pas, c'est relativement correct. 21 degrés à Belfort et à Lille cet après-midi, 23 à Paris, 24 pour Dijon, 27 degrés à Nice et Montauban, 30 à Ajaccio et un bon 34 à Avignon.
Merci Valérie, rendez-vous, prochain rendez-vous d'info avec vous. Ce sera à 18h pour RTL Soir. Il est 13h03. Dans un instant, les voix du crime avec l'affaire Francis Holm et Jérôme Florin.